19h, temps universel.
Washington, la voix de l'Amérique.
Vous êtes à l'écoute du Monde aujourd'hui.
Retrouvez-nous aussi sur Internet, Facebook et sur votre portable.
Bonsoir à tous, la diaspora africaine et le Ramadan, ce sera le thème du magazine Dialogue des religions dans moins de 5 minutes avec Idrissa Seydoudia, mais je vous présente tout d'abord un bulletin d'information. Au Burkina Faso, 4 personnes sont mortes et 38 autres ont été blessées dans l'explosion mardi soir d'un dépôt d'explosifs à Ouagadougou, selon la police Bagassikoura.
32 des 38 blessés ont été évacués à l'hôpital, a déclaré Omer Bationo, directeur général de la Sécurité nationale. Au cours d'une conférence de presse, il a formellement rejeté toute hypothèse d'attentat. Pour M. Bationo, le sinistre d'origine accidentelle a été provoqué par l'activation d'explosifs destinés à un usage minier qui était illégalement stocké dans une maison. 21 maisons se sont effondrées ou ont été partiellement détruites dans un périmètre de 100 mètres autour du lieu de l'explosion. L'accident s'étant produit près de la demeure d'un chef traditionnel qui a rejoint l'opposition a donc suscité de nombreuses rumeurs et supputations à Ouagadougou.
Le gouvernement de Bamako et les groupes armés maliens sont à Alger pour discuter des négociations difficiles afin de trouver un accord de paix. Nicolas Pinault.
Le MNLA, le HCUA, deux branches du MAA et des milices d'autodéfense proches du gouvernement malien sont représentés à Alger. Également sur place, Abdoulaye Diop, ministre malien des Affaires étrangères, qui a assuré que tout est négociable, sauf l'intégrité et la laïcité de l'État. Il s'agit des premières discussions directes après l'accord intérimaire du 18 juin 2013 à Ouagadougou. Mais depuis l'élection du président Ibrahim Boubacar Keïta en août 2013, les pourparlers étaient au point mort. En mai dernier, les trois groupes rebelles, le MNLA, le HCUA et le MAA, avaient mis en déroute l'armée malienne à Kidal. Dans un geste de bonne volonté hier, les partis ont procédé à Bamako à un échange de 86 prisonniers.
Dans l'est de la République démocratique du Congo, Médecins sans frontières dénoncent l'esclavage sexuel et le travail forcé que des milices infligent aux civils dans des régions minières. Selon MSF, des femmes, des hommes sont parfois retenus captifs pendant des mois. En Égypte, 7 personnes ont été condamnées à la prison à vie. Elles ont été reconnues coupables de viol, une première dans un pays où le viol des femmes est monnaie courante et en toute impunité.
La Voix de l'Amérique, en direct de Washington.
Le président syrien Bachar al-Assad a prêté serment aujourd'hui à Damas pour un troisième mandat de 7 ans. Cette réélection a été qualifiée de farce par l'opposition et ses alliés occidentaux. Le premier ministre israélien Benjamin Netanyahou a accusé les militants du Hamas de crimes de guerre, disant qu'ils prennent pour cible des millions de civils israéliens et utilisent leur propre population civile à Gaza comme bouclier humain. Lors d'une conférence de presse ce mercredi, M. Netanyahou a également critiqué le rejet par le Hamas de la proposition de cesser le feu faite par les Égypte. Aujourd'hui, l'armée israélienne a demandé à des dizaines de milliers de résidents du nord de Gaza de quitter leur domicile alors que les bombardements continuent. En Afghanistan, l'audit de tous les suffrages exprimés lors du second tour de la présidentielle va débuter demain. En vertu d'un accord négocié samedi par le secrétaire d'État John Kerry, les deux candidats Abdullah Abdullah et Ashraf Ghani acceptent la révision des 8 millions de bulletins et promettent de respecter le résultat final. Le transfert des urnes vers la capitale Kaboul s'effectue sous la supervision de la force internationale. Des représentants des deux candidats assisteront au processus, de même que des journalistes et des observateurs afghans et étrangers. 4 frappes de drones par les États-Unis ont fait au moins 15 morts dans le Waziristan Nord, annoncent les autorités pakistanaises. L'identité des victimes n'est pas révélée et l'information n'a pas été confirmée de sources indépendantes. Parallèlement, l'armée pakistanaise affirme avoir tué 35 militants dans le cadre d'une offensive contre les talibans. Et puis on revient en Afrique avec la tournée africaine de François Hollande. Le président français arrivera demain en Côte d'Ivoire. Il se rendra ensuite au Niger, puis au Tchad, où l'annonce de sa visite fait déjà des remous. L'opposant Saleh Kebzabo demande à la France d'être plus exigeante envers le régime du président Idriss Déby. Dans quelques instants, le magazine de le Dialogue des religions.
Foi et tradition,
vérité et doctrine,
le dialogue des religions
sur la Voix de l'Amérique.
Bonsoir à tous et à tout au micro, Idrissa Seloudia. Dans le dialogue des religions de ce mercredi 16 juillet 2014, comment la diaspora musulmane africaine observe-t-elle le Ramadan aux États-Unis ? Avec nous en studio, mes collègues Kadiatou Traoré et Mariem Traoré. Kadiatou et Mariem, bonsoir.
Bonsoir, Diane.
Alors, nous avons en présence ici deux mères de famille qui partageront avec vous leurs expériences respectives dans ce pays. Et par téléphone, l'imam Papmoup, imam de la communauté musulmane basée à Silver Spring, une ville du Maryland située non loin de Washington. Imam, est-ce que vous m'entendez ?
Je vous entends.
Merci beaucoup d'avoir accepté de participer à cette émission. Nos invités répondront à vos commentaires et questions sur Facebook ou en direct. Pour commencer, Imam, dites-nous brièvement ce qu'est le Ramadan et ce qu'on attend du fidèle pendant ce mois saint de l'islam.
Merci, Idrissa. Comme vous le savez, le Ramadan, c'est un des piliers de l'islam. À part la déclaration de la foi, la zakat, le pèlerinage, c'est un des piliers que chaque musulman doit essayer de remplir pour garder son islam en quelque sorte.
Alors, spécifiquement, comment est-ce que ça se pratique pour le fidèle ?
Tout fidèle doit jeûner de l'aube au crépuscule, et quand on dit jeûne, on parle d'un aspect assez plus ou moins spécifique, parce que c'est pas seulement, comme je dis toujours, le jeûne, c'est pas une grève de la faim. Le jeûne est une obligation divine, donc c'est une façon de se communier avec Dieu. Et donc, ça demande que tous les organes dont on dispose puissent jeûner en même temps.
Très bien.
Que l'on s'abstienne de toutes choses que Dieu nous a exigé de faire. Donc, c'est un tout.
Et l'objectif ultime en islam, c'est quoi ?
L'objectif, c'est d'abord prôner la self-discipline. Et comme le Coran nous a enseigné, c'est qu'on puisse avoir la foi, une foi beaucoup plus intense, à la fin du Ramadan, là le contact tapant. Donc, afin que nous puissions être beaucoup plus pieux, en quelque sorte. C'est l'objectif ultime.
Merci beaucoup, Imam. Maintenant, je me tourne vers Kadiatou et Mariem. Comment, en tant que mère de famille, et puis qui travaille régulièrement, comment est-ce que vous pouvez concilier ces desiderata de l'islam et les desiderata du monde moderne ?
J'avoue que, Idrissa, ce n'est pas très facile ici, surtout aux États-Unis. C'est surtout avec notre, moi particulièrement, Kadiatou, qui parle comme ça. Je m'excuse, c'est Kadiatou Traoré qui parle. C'est pas évident de venir travailler tous les jours, 8 heures de temps, et puis retourner avec la distance qu'on a et tout ça, et s'occuper de la famille. Mais nous, quand même, on arrive à tenir le coup. Et surtout qu'en cette période particulièrement de carême, cette année, les journées, il y a un environnement climatique aussi qui joue sur ça. Les journées sont particulièrement très longues là, cette fois-ci. Les gens jeûnent à peu près 14 à 15 heures par jour. Et les nuits sont trop courtes. Le temps d'arriver à la maison, de s'occuper de la rupture, parce que nous faisons la rupture à partir de 9 heures, 21 heures la nuit. Et s'occuper de tout ça, et aussitôt, le jour se lève vers 5 heures du matin.
En Afrique, c'est généralement beaucoup plus court, hein?
C'est beaucoup plus court parce que les changements, la transformation climatique, je veux dire, parce qu'en Europe ici, bon, enfin, aux États-Unis, je m'excuse du terme, quand on arrive à cette période de l'année, les journées sont plus longues et les nuits sont courtes. C'est comme ça. Particulièrement ceux qui sont sur la zone... la bande de GMT, ça ne change pas trop. On ne sent pas ce changement climatique. Et donc, ce qui fait que c'est ce qui pèse beaucoup sur les gens ici pendant le Ramadan.
Mariem ?
Bon, je pense que Kadiatou Traoré a tout dit un peu. Par rapport à moi, je pense que c'est pas du tout facile. Étant une mère et puis tu travailles souvent ici, en Occident, c'est pas facile. D'abord, souvent, on a besoin de... Quand tu es seule, surtout à la maison, ou même si tu es mariée, les horaires sont pas... C'est pas pareil. Peut-être que la femme peut travailler le matin et le mari travaille la nuit. Souvent, c'est pas facile pour une femme d'être seule à la maison et faire les nafla. Et ça, c'est ce côté qui est en train de me gêner beaucoup. Et... C'est pas facile parce que tu peux être par exemple à Highsville et qu'il y a la mosquée à 25 ou bien peut-être 30 km de chez toi.
J'aimerais vous poser la question de savoir, bon, vous êtes dans un milieu qui est essentiellement chrétien, n'est-ce pas?
Oui.
Et quand vous voyez les gens manger, quand vous voyez les gens fumer, quand vous voyez les gens continuer à vaquer à leurs occupations, qu'est-ce que ça peut vous faire? Mais on a un auditeur, Abdoulaye. Abdoulaye, voulez-vous vous présenter?
D'accord, moi je suis Abdoulaye Moussa.
Ok. Allez-y, Abdoulaye, posez votre question.
Pakistan trafiqué au Cameroun.
D'accord.
Je voulais participer à votre conférence.
Ok, vous êtes en ligne.
Allô?
Oui, allez-y.
Ah, juste pour que vous priez, vous demandez à Allah que la paix revienne en Centrafrique.
Amen.
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 Et que Dieu vous entende, qu'il soit avec nous.
Et pour nous. Ouais, pour nos frères qui sont en train de tuer vers Palestine, là. Qu'Allah nous aide à débarrasser de tout.
Amen.
Amen. Imam, vous êtes encore avec nous? Imam Boup?
Oui, je vous entends.
Oui, l'auditeur a fait allusion à la guerre, au conflit qui déchire son pays et qui déchire le Moyen-Orient. Pendant le Ramadan, est-ce qu'on ne pouvait pas s'attendre à un peu d'accalmie, un peu de paix?
Bien entendu, c'est un mois de pénitence et de pardon. Le prophète Mohammed nous a enseigné que les 10 premiers jours du Ramadan sont des jours de miséricorde. Donc, quand on parle de miséricorde, il faudrait que les gens se comprennent d'abord, que les gens se pardonnent, que les gens puissent également se cacher les défauts qu'on a nous tous et se transcender dans la paix et dans le bonheur. Et les 10 jours qui sont au milieu sont des jours de pardon. Merci. Le prophète nous enseigne que Dieu ne veut pas pardonner, ne va pas pardonner certainement un homme qui ne pardonne pas les autres.
N'est-ce pas?
Et les 10 derniers jours, ce sont des jours qui nous préservent de l'enfer.
Merci, Imam. Tout à l'heure, je vous poserai une question beaucoup plus spécifique sur ces conflits, parce que beaucoup d'auditeurs nous ont fait part de leurs prières pour la Palestine, pour Gaza en particulier, et le conflit actuel entre Israël et les Palestiniens. Et ils nous ont envoyé leurs prières pour demander que la paix revienne très rapidement dans cette région. Ils ont demandé aussi la paix pour l'Irak, et comme on l'a entendu tout à l'heure, en République centrafricaine. Et je suis sûr que c'est valable pour toutes les régions du monde où il y a le sang qui coule. Maintenant, quand vous voyez vos collègues, Kadiatou et Mariem, quand vous voyez vos collègues manger sans aucun problème, est-ce que ça vous gêne?
Moi, je dirais, Idrissa, non, parce que c'est la foi.
Oui.
La foi qui m'anime à le faire. Je ne sens même pas que les gens sont en train de manger autour de moi quand je fais le carême. C'est juste la foi, une question de foi. Bon, mais comme on n'est pas dans un environnement comme on aurait pu le souhaiter, par exemple, si je vis dans mon pays, le Mali qui est un pays à peu près à 95% musulmans, majorité musulmans, et les gens le font ensemble et c'est beaucoup plus... tu vois, c'est beaucoup, il y a beaucoup plus d'ambiance, il y a beaucoup plus de volonté, de bonne volonté à le faire, et il y a beaucoup plus d'engouement pour tout le monde de le faire ensemble. Et c'est seulement cette petite chose qui nous manque ici, le fait d'être.
Moi, je pense que chez moi aussi, c'est pareil, mais le temps de couper le jeûne, souvent, ce n'est pas facile, surtout avec les nourritures. S'il faudra que toi, tu restes au boulot pendant 8 heures de temps, comme Kajatou avait déjà mentionné, le temps de rentrer à la maison, ça trouve déjà que tu es plus qu'épuisé en tant que mère. Il faudra d'aller directement dans la cuisine, s'occuper de la bouillie, comme la tradition nous demande au pays, ce n'est pas facile. Donc, c'est ça aussi, c'est un problème qui gêne presque toutes les femmes musulmanes ici.
Je vais demander à l'imam comment ça se passe avec les prières si, par exemple, à cause du travail, on ne peut pas observer régulièrement les heures de prière au boulot.
Vous savez, merci, Idrissa. L'islam est une religion facile. Le prophète Mohammed nous dit toujours que la religion musulmane, il n'y a pas de contraintes, comme l'a dit le Coran. Il n'y a pas de contrainte dans la religion. Donc, s'il y a des conditions où une personne ne peut pas s'acquitter de ses prières, là où il travaille, à son retour, il peut les faire.
Très bien. Merci. Maintenant, il s'agit de savoir comment, par exemple, vous traitez avec, ou comment vos voisins, vos voisines, vos amis, qui ne sont pas musulmans ici, traitent avec vous.
Moi, je n'ai pas de problème particulièrement par rapport à ça. Mais j'avoue qu'on nous regarde d'un œil. Mais vous savez, Idrissa, moi, je ne prête pas trop attention à ça. Et ils savent qu'on est musulmans parce que quand on avait déménagé là-bas, on se présente pour la première fois, on se voit. Et dans nos habitudes, les gens s'observent, comme tu le sais très bien ici, les gens s'observent très bien quand vous habitez ensemble. Et par exemple, ma fille s'est voilée brusquement quand elle avait 16 ans. Elle est venue, maman, moi j'ai envie de porter le voile. Et elle était à l'école, elle était au lycée. Et puis elle me demande, elle m'a posé une question. Pourquoi toi tu ne te voiles pas? J'ai dit, ah ça c'est un choix. C'est un choix que j'ai fait. Et si tu veux te voiler, tu peux le faire. Et elle était à l'école, au lycée. Mais ce que j'ai remarqué quand elle avait fait, elle avait eu des petits problèmes au début parce que les gens n'avaient pas l'habitude de la voir comme ça avec le voile, mais quand même, ça lui est passé. Parce que cette tolérance de la religion, la loi condamne ici, aux États-Unis, on ne doit pas agresser l'autre qui n'est pas d'une autre religion que toi. On doit s'accepter. C'est la loi qui le dit ici.
Et même quand la personne est athée.
Même quand la personne est athée, on respecte ses opinions et tout. Et donc, tu peux sentir aux gens des petites combines, des petites des méchancetés, mais pas trop visibles, parce que tu ne peux pas avoir de preuves là-dedans, parce que quand il y a des preuves, c'est grave. Ça peut vous amener devant le juge. Donc, ils font très attention.
Vous avez constaté le même degré de tolérance, Mariam?
Bon, généralement, moi, je viens d'arriver ici à Washington, mais là où j'ai quitté, je pense que c'est un peu plus pareil. À Michigan, là-bas, il y a plein de musulmans, il y a plein d'arabes, mais ce n'est pas facile pour les gens de te voir, surtout si tu t'habilles en africaine au mois de Karim, au mois de Ramadan. Tu te vagues dans tes activités, tu vas faire tes shopping, tout. Les gens essaient toujours de t'approcher et puis te poser des questions. Pourquoi tu fais ça? Et j'ai appris quelque chose ici. Il y a la majorité des Américains, étant chrétiens, catholiques ou protestants, et tous, je peux même dire, ils savent, quand le mois de Ramadan est là, tout le monde en parle entre eux. Donc ça, je pense que ça m'a un peu impressionné aussi.
Et il y a un autre fait que je voudrais signaler, parce que c'est très important pour moi, parce que quand j'étais venue ici, j'étais arrivée ici, je suis repartie à l'école, à l'université et tout. Et Le premier ramadan qui m'a trouvé ici, j'étais très impressionnée parce que l'école a pris des dispositions, le collège a pris des dispositions. Ils ont laissé des messages dans toutes les classes aux professeurs pour dire que c'est le mois des musulmans, c'est le ramadan, et de faire en sorte que, et c'était des cours du soir que moi je prenais, que la période de la pause puisse coïncider avec le moment de la rupture pour permettre aux musulmans d'aller faire la rupture et faire la prière du soir,
du
là,
crépuscule,
de crépuscule et revenir en classe. Et ça, c'est très important.
Imam, est-ce que vous avez la même expérience dans votre communauté?
Oui, je pense que nous partageons les mêmes expériences. Et bien entendu, nous avons une communauté très variée, où il y a beaucoup de nationalités. Et des iftars, on a également, chaque vendredi, on organise de grandes cérémonies. Et on invite des gens qui ne sont pas des musulmans, parce qu'on travaille avec beaucoup de communautés non musulmanes. Donc on les invite, ils viennent chez nous, ils voient comment les musulmans rompent les jeûnes. Donc, ça leur fait savoir beaucoup de choses sur l'islam. Et puis, on fait des petites causeries sur l'islam pour les éveiller, pour les éduquer. Et puis, j'ai vu comment nos femmes, vraiment, quel que soit leurs engagements, quel que soit leur business, comme on dit, donc elles s'attachent vraiment à venir à la mosquée, à amener leurs enfants, à leur faire connaître la culture musulmane, le sens du partage, le sens non seulement du partage, mais surtout le sens de vouloir pardonner, comme on dit, et puis de valoriser l'éducation islamique envers les enseignements qu'on donne là-bas.
Merci, Imam. Avant de passer la parole à Djibril Diallo et à Madjaliwa Manara, j'aimerais tout simplement ajouter qu'il y a des iftars qui sont aussi organisés à la Maison-Blanche par les présidents des États-Unis depuis quelques années pour honorer justement les musulmans et montrer aussi leur respect pour ce mois sacré de l'islam. Alors, Djibril Diallo, vous avez l'antenne. Djibril ?
Oui, alors bonsoir à vous.
Bonsoir.
Alors, bonsoir aux invités aussi.
Bonsoir, Djibril.
Oui, bonsoir.
Bonsoir.
J'aimerais savoir pourquoi la plupart des femmes n'arrivent pas à célébrer leur carême.
J'ai pas bien compris la question.
Pourquoi la plupart des femmes n'arrivent pas à compléter le carême?
Eh bien,
moi,
Djibril,
pense que c'est naturel.
Djibril, ça, c'est un fait de Dieu. C'est purement biologique. Étant donné que la femme ne peut pas être propre pendant tout le mois de
un mois oui.
Et on est nous sommes comment on dit
je crois qu'il a compris et puis c'est valable aussi pour l'homme souvent ne peut pas terminer quand il est malade ou quand il est en voyage, n'est-ce pas, imam?
Absolument, et ça, je vous entends, donc vous avez parfaitement raison. Et je suis très content que nos connaisseurs aient bien répondu à la question. Et même si vous jeûnez après le ramadan pour compenser, vous avez les mêmes bienfaits.
En quelque sorte, comme vous l'avez dit tout à l'heure, l'islam est facile, je ne dirais pas facile, mais plutôt flexible.
Mais absolument flexible.
Voilà. Bon, maintenant, Manara. Manara, vous êtes là? Nous avons perdu Manara. Alors... vous aviez une question à poser à l'imam?
Imam, bonsoir, c'est Kadiatou.
Merci, Kadiatou.
Mais ma question, c'est de savoir, comme vous l'avez déjà en début, Idrissa vous a posé la question, comment concilier, et vous avez parlé de la tolérance, et puis de la
du
simplicité,
pardon.
Du pardon, de l'islam et tout ça, par rapport aux prières, parce que c'était mon inquiétude. Nous, pratiquement, nous passons toute la journée ici, et donc on manque les trois prières, la prière de 14h, la prière de 16h, et puis la prière du crépuscule. Nous le manquons, pratiquement. Et quand on arrive à la maison, déjà, des fois, moi, je fais la rupture quand je suis dans ma voiture, en cours de chemin, et... il y a pas, c'est pas très bien compris parce que, étant donné que l'islam se transmet dans une autre langue, chez nous, en Afrique, et c'est en arabe, et il y a des interpréteurs qui doivent nous dire, et c'est comme ça, c'est comme ça, c'est comme ça dans le Coran. Et quand tu n'as pas eu la chance d'aller, d'avoir une instruction aussi, tu ne peux pas lire le Coran par toi-même et le comprendre. C'est très difficile, en fait, c'est complexe. Et est-ce que le fait d'entasser les prières comme ça, tu peux avoir les mêmes bénédictions que la personne qui le tient aux heures, comme il est dit?
Merci, ma sœur. Dieu a ses exigences, qu'on connaît nous tous. Il faudrait que chaque musulman s'attache à s'acquitter de ses prières à ses heures spécifiques. La prière à ses heures spécifiques, les cinq prières. Maintenant, il arrive qu'une personne ne remplit pas toutes les conditions. Par exemple, elle est malade ou bien là où elle travaille, elle n'a pas les conditions requises de propreté. Et elle peut les faire à son retour à la maison. Des fois, l'espace n'est pas disponible. Des fois, les conditions ne sont pas disponibles. Tout ça. Donc, il y a beaucoup de conditions que je ne connais pas. Donc, chacun connaît mieux les conditions dans lesquelles il vit, il travaille.
Imam, il ne nous reste plus beaucoup de temps et j'aimerais poser cette question d'un auditeur sur Facebook. Oui. Comment se comportent les commerçants, les boutiquiers et les magasiniers dans ce mois de Ramadan? Se livrent-ils à la surenchère de la viande, des vivres à manger, comme dans des pays à dominance musulmane, écrit-il? Sont-ils véreux ou cupides? En quelque sorte, ça c'est un problème soulevé par beaucoup d'auditeurs, à savoir que les commerçants profitent de ce mois de Ramadan pour se remplir les poches. C'est bien entendu contre l'islam.
C'est contre l'islam, bien entendu. C'est contre l'islam parce que Dieu exige que les musulmans puissent être des gens honnêtes envers eux, honnêtes envers leurs confrères. Donc si une personne veut cacher les marchandises pour élever le prix faire une surenchère durant le Ramadan, ça c'est contre le dogme. Donc c'est contre l'islam en quelque sorte. C'est contre l'islam. C'est pas de l'honnêteté.
Non, de toute évidence, c'est tenter de profiter d'une situation où les gens essaient de rendre hommage à Dieu et de remplir, leur devoir de musulman et puis essayer d'en profiter effectivement. Ça fait montre de très peu d'intégrité.
Absolument.
Alors, je voulais dire que Théophile Tse dit que vos prières touchent le cœur des méchants. Je crois qu'aussi le Ramadan doit avoir ce but, rendre les gens beaucoup plus généreux vis-à-vis de leurs frères et sœurs, que peu importe la religion.
Absolument.
Ok. Alors, Mariam, pas de questions? Kadiatou?
Non, peut-être une petite contribution pour seulement parce que j'avais eu les questions de. On avait eu plein de questions.
Oui.
Il y a un certain monsieur Alphonse Mbouaki qui avait demandé que pensez-vous que les musulmans, et en particulier les musulmans, ont besoin d'expliquer leur culture aux Américains, notamment la perception des femmes dans la région musulmane?
Oui, je crois qu'on y a touché tout à l'heure avec vos réponses et avec celle de l'imam. On a pu expliquer qu'il y a la tolérance et que les gens vous abordent dans la rue pour vous poser des questions, vos voisins, etc.
Absolument.
Donc, merci beaucoup encore une fois, Kadiatou Traoré.
Merci, Idrissa.
Merci, Mariam. Merci. Et merci à l'imam Papboum.
Merci, imam.
Imam, merci encore une fois.
Merci.
Il est imam de la communauté musulmane et il est basé à Silver Spring, tout près de Washington, dans l'état du Maryland. Je remercie aussi Joselle Morissin. Idrissa Sedoudia, la voix de l'Amérique pour le dialogue des religions.